Le vrai true crime avec les vrais dossiers. Bienvenue sur Mémoire d'archives. L'affaire Blanche Garneau, chapitre 3, victimologie. Dans ce chapitre, on va survoler surtout l'aspect victimologie de Blanche Garneau, donc de la victime de notre histoire. Ce que j'ai réussi à retracer, c'est que Théophile Garneau a vu le jour dans le quartier Saint-Sauveur à Québec le 22 novembre 1868. On sait qu'il se dirigeait lentement vers son 7e anniversaire lorsque naissait, dans le même quartier, Rosanna Paré, le 25 octobre 1875. Là, vous vous demandez certainement c'est qui ça, Monsieur Théophile Garneau et Rosanna Paré. Ben, ce sont les futurs parents de Blanche Garneau. Évidemment, comme c'est souvent le cas de la généalogie, ça nous permet de retracer certaines dates, mais on ignore à peu près tout, tout de leur enfance, donc on ne connaît rien de leur contexte, de ce qu'ils ont pu vivre. Mais on sait qu'ils ont fini tous les deux par se rencontrer éventuellement, on ne sait pas comment, et à se marier le 21 octobre 1895. Le couple, formé par Théophile Garneau et Rosanna Paré, a eu un premier enfant le 15 février 1896. C'était une fille qui a hérité du nom de Yvonne Garneau. Son grand-père, François Paré, a été désigné comme parrain, alors que sa marraine était la sœur de ce dernier, donc Anastase Paré. Et deux jours plus tard, Théophile perdait son père, Louis Garneau, qui avait été policier, donc allait rejoindre sa femme dans la mort. Donc, il y avait un policier dans la famille, c'est-à-dire le grand-père de Blanche Garneau, qui malheureusement n'a jamais connu la petite Blanche. Mes recherches ont permis aussi de découvrir que le 9 mars 1897, c'était un fils baptisé Théophile Phileas Garneau qui venait au monde. Malheureusement, le petit garçon est mort 4 mois plus tard, le 5 juillet. Le 18 avril 1898, un deuxième fils, cette fois Arthur, est venu faire oublier aux parents leur drame de l'année précédente. Le 20 mars 1899, ce fut une deuxième fille. Théophile et Rosanna se sont empressés de la baptiser sous le nom de Malvina Blanche Graziella Garneau. Et oui, notre personnage principal ici même. Louis Garneau Jr. est devenu son parrain, alors que Malvina Métivier a été choisie pour être sa marraine. Selon le registre signé le jour même du baptême, ça indique que Théophile était électricien, donc le père de Blanche Garneau était électricien, une profession qui était à cette époque-là en plein essor. Le bonheur engendré par la naissance de Blanche a été malheureusement de courte durée puisque 2 jours plus tard, son jeune frère Arthur est décédé avant de pouvoir célébrer son tout premier anniversaire. Donc, il ne s'est même pas rendu à 1 an. Pauvre petit bonhomme. Décidément, la vie, comme on vient de le voir, souriait assez peu à la famille Garneau. Ça allait pas bien. Le 9 novembre 1900, Rosanna a donné naissance à un autre fils, donc elle a donné un petit frère à Yvonne et à Blanche, et celui-ci a été nommé Théophile Alphonse, mais encore une fois, la malédiction, je dis malédiction ici dans le sens littéraire et non pas dans, je crois pas aux affaires fantastiques ou quoi que ce soit, mais a continué de s'acharner finalement sur la famille parce que le petit garçon s'est éteint le 24 juin 1901. Après ça, ben, y a un certain moment de répit qui s'est installé dans la parenté, jusqu'à ce que le 9 septembre 1901, le parrain et la marraine de Blanche, Louis Garneau Jr. et Malvina Métivier, se sont mariés. Et oui, parrain et marraine se sont mariés à l'église de Saint-Zéphirin de Stadacona. C'était le quartier où vivait Blanche Garneau 20 ans plus tard, au moment de sa disparition. Un peu plus de 2 mois plus tard, Rosanna donna naissance à Ludger Théophile le 24 novembre 1901. Vous aurez remarqué qu'il y a beaucoup de naissances. Hein? À cette époque-là, les femmes devaient, je le dis pas de façon péjorative, mais c'était quand même comme ça, devaient produire, comme on dit. Donc, devaient donner naissance le plus possible pour former des grosses familles. Évidemment, c'était le contrôle, tout le monde le sait maintenant, c'était le contrôle de la religion, donc du clergé, qui voulait cela comme phénomène de société. Mais malheureusement, le malheur avait décidé apparemment de s'accrocher solidement à la famille Garneau et de ne presque jamais la quitter finalement, parce que le petit garçon, encore une fois, n'a survécu que quelques semaines. Il s'est éteint le 17 décembre 1901. Le 12 novembre 1902, Rosanna a mis au monde une autre fille que l'on a baptisée cette fois Marie-Jeanne Émérilda. Quelques semaines plus tard, le père de famille a été frappé par la mort, donc Théophile s'est éteint le 23 décembre 1902. Comme on l'a dit, Blanche venait pratiquement de voir le jour, donc elle avait 3 ans. Alors, je ne pense pas, malheureusement, qu'elle ait gardé des souvenirs bien, bien indélébiles de son père. Donc, on peut dire qu'elle ne l'a jamais connu. Et évidemment, vous aurez remarqué, 23 décembre, cette mort-là survenait 2 jours avant Noël. Et les décès dans cette période-là ne sont jamais très, très, très joyeux. Théophile, elle n'avait que 34 ans aussi. Et sa petite Marie-Jeanne, la dernière là, qu'on vient de mentionner, l'a suivie peu de temps après dans la mort, donc le 16 avril 1903. Le 17 décembre 1904, c'est à l'Hôtel Dieu de Québec que Rosanna mourait à son tour. Donc, s'en était jeté. Yvonne et Blanche Garneau, les deux sœurs Garneau, devenaient des orphelines. Cette dernière à l'âge de 5 ans et 9 mois. Comme on le verra plus tard, les circonstances de leur adoption n'ont jamais été, en tout cas, j'ai pas réussi à les éclaircir tellement. On imagine qu'elles ont été éventuellement adoptées. Il y aurait une première version selon laquelle les deux sœurs auraient été adoptées ensemble par le couple Baribeau, le couple qu'on vient d'apprendre à connaître et qu'on va connaître encore, qui était quand même assez âgé. Mais il y a une deuxième version aussi qui se présente avec le mariage d'Yvonne à Narcisse Martin, le 15 mai 1915, toujours à l'église de Saint-Zéphirin de Stadacona. On a remarqué que dans le registre, on mentionne que les parents adoptifs d'Yvonne étaient alors le Chartier Alfred de Caron et Philomène Métivier. Donc, pour ce qui est d'Yvonne, elle n'aurait pas, semble-t-il, été adoptée par les Baribeaux. Donc, ça semble vouloir dire que les deux sœurs ont été adoptées plutôt séparément. Et selon les annuaires de Québec, le couple Caron-Métivier résidait alors dans le quartier Stadacona au 35,5 2e Avenue. Donc, évidemment, vous aurez compris qu'il y a un trou là, dans l'histoire de la petite Blanche Garneau. Donc, de son enfance, de son adolescence, on ne sait rien ou à peu près rien. Donc, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a éventuellement fini par être adoptée par Michel et Émilie Baribeau. Donc, elle a fini par se retrouver là, mais c'est plutôt vague. Tout ce qu'on sait que j'ai pu trouver, c'est que le couple habitait déjà dans le quartier Stadacona en 1901, c'est-à-dire au 6 de la 5e rue. Donc, c'était une autre adresse que celle de 1920, mais quand même, c'était le même quartier. Quant à ce père adoptif, justement, qui, on va apprendre à le connaître un petit peu plus tard aussi, il va même témoigner, et qu'il a cherché sa fille le soir, c'est-à-dire le lendemain de la disparition. Il s'appelait Michel-Alexandre Baribeau. J'ai réussi à découvrir qu'il est né le 28 décembre 1852, dans le quartier Saint-Roch, à Québec. À l'âge de 31 ans, c'est à Lévis qu'il a épousé Agnès Grenier le 16 juin 1884. Celle-ci devait cependant mourir 3 ans plus tard, donc c'est-à-dire qu'il a connu un premier mariage. Et Baribeau semble avoir passé la majeure partie de sa vie dans les quartiers de Stadacona ou Saint-Roch, Donc, il était plutôt bien connu, il connaissait bien le quartier. Le 25 juin 1888, il s'est remarié avec Émilie Sanfaçon, donc c'est celle, sa femme, c'est celle qui était sa femme en 1920, et qui, elle, était la veuve de Joseph Belleau dit Larose. De ce mariage, elle avait eu deux fils, qui s'appelaient Delphis et Joseph Larose, et par la suite, elle n'a plus jamais eu d'enfant. Donc, en 1920, c'est-à-dire au moment où le drame frappe dans le parc Victoria, Michel Baribeau avait 67 ans et Émilie avait 61 ans. Ils habitaient un modeste logement situé au 59 de la rue François 1er, dans la paroisse de Stadacona. Joseph Larose, l'un des fils de Émilie, donc qu'elle avait eu de son premier mariage, était marié et installé avec sa jeune famille. Seul Delphis y avait encore un pied à terre. Donc Delphis, je veux pas dire ici qu'il est un suspect, mais je pense qu'il a été considéré aussi à un moment donné comme suspect. Mais il habitait de façon sporadique là, avec les parents. Donc on peut imaginer qu'il a quand même croisé plusieurs fois Blanche Garneau. Mais au moment de la disparition de Blanche, justement, on dit que Delphis était parti depuis plusieurs mois sur les chantiers et le vieux couple habitait seul avec Blanche Garneau. Et cette année-là aussi, donc la seule membre de la famille de Blanche qui est encore vivante, donc sa sœur aînée Yvonne et son mari qui était pompier, habitaient eux au 15 de la rue Bernière. Face aux plaines d'Abraham. Donc, on peut croire qu'elle habitait un autre quartier, et un quartier quand même plus réputé, si on veut, plus qui avait plus de classe. Donc, quel était le lien qu'elle entretenait avec sa jeune sœur qui, elle, habitait un quartier plus pauvre à Stadacona? En fait, on ne le sait pas trop. On va laisser ça à la suite de notre histoire. C'est peut-être aussi, c'est ce que j'écrivais à l'époque, en raison de cette distance, parce que il y avait une distance physique aussi, là. L'emploi que Blanche occupait, elle travaillait 6 jours sur 7. On en déduit que les deux sœurs ne devaient certainement pas se côtoyer tous les jours, parce qu'elles travaillaient donc à temps plein. Et à cette époque-là, ben les moyens de transport, c'était les souliers. Il y avait le tramway, comme on l'a vu aussi, les chevaux, mais dans le quotidien, c'est un peu comme aujourd'hui déjà. Là, on pense que nous autres, on a inventé, on a tout inventé, mais déjà, quelqu'un qui travaillait à temps plein à cette époque-là, il y avait des semaines occupées. Et 6 jours sur 7, c'est quand même pas rien, donc ça lui donnait seulement une journée pour vaquer à ses occupations. Et bon, fait qu'on peut en déduire qu'elle ne voyait pas sa sœur tous les jours. Il y a d'autres personnes qu'elle voyait tous les jours qui faisaient partie de son quotidien, comme Edesme Boucher, par exemple, ou ses parents adoptifs. Mais pour ce qui est de sa sœur, c'est ce qu'on peut présumer. Donc, les deux sœurs ne se voyaient probablement pas fréquemment. J'y reviens encore une fois à l'auteur Réal Bertrand, qui, dans les années 80, avait sorti un livre sur l'affaire Blanche Garneau. Lui, il a prétendu que Blanche Garneau voulait entrer au couvent chez les sœurs servantes du Saint-Cœur de Marie. Il a écrit, et je cite, « Pauvre, elle économisait depuis longtemps pour amasser la dot exigée, une somme considérable à l'époque, c'est-à-dire 200 $ à l'entrée et 10 $ par mois, durant les 3 ans de postulat et du noviciat. D'ailleurs, pendant des années, la maîtresse des novices, Mère Saint-Ignace, montrera à ses protégés la demande d'admission de Blanche Garneau. » Et je ferme ici les guillemets. Au moment de faire ma recherche, quand j'étais plongé dans les milliers de pages du dossier judiciaire, pour être honnête avec vous, j'ai jamais rien vu dans le dossier judiciaire qui faisait allusion à cette supposée demande d'admission au couvent. Alors, plus je lisais le dossier judiciaire, ben plus j'avais des doutes. La seule allusion qu'on peut faire, c'est lorsqu'un avocat a questionné Edesme Boucher sur ce sujet en 1922. Mademoiselle Boucher a répondu ne jamais avoir entendu parler de cet élan de vie religieuse chez sa meilleure amie. Donc, j'ai voulu en 2016, 2015, 2016, là, au moment que je faisais ma recherche et toute l'analyse du dossier, j'ai voulu pousser ça un petit peu plus loin. Donc, j'ai écrit à la congrégation concernée en décembre 2015. Le 11 décembre de la même année, donc le 11 décembre 2015, sœur Monique Roy m'a répondu ceci. Et j'ouvre les guillemets. Suite à votre demande, j'ai consulté nos documents d'archives susceptibles de contenir une information, soit une demande d'admission dans notre congrégation de la part de Blanche Garneau. Je n'ai rien trouvé. J'ai consulté des sœurs aînées afin de vérifier si elles avaient entendu parler de cette jeune dame assassinée en 1920. Aucune d'elles n'a de souvenir de ce côté. Le fait que les sœurs servantes du Saint-Cœur de Marie ont enseigné à Stadacona à partir de 1899, j'espérais remuer des souvenirs. Et je ferme les guillemets. Donc, ça veut dire que l'auteur, M. Bertrand, où a-t-il pris son information? Je l'ignore. Je ne sais pas du tout. Mais est-ce que c'est une rumeur? Est-ce que c'est fondé? Mais là, on a la source, on a le couvent même, sœur Monique Roy, qui a eu le... que je remercie d'ailleurs en passant, qui a pris la peine de m'écrire, de faire la recherche aussi, n'a rien trouvé à ce sujet. Donc, on reste dans le néant. Alors, devant une impasse comme ça, s'il n'y a pas de preuves, moi, je considère que ça n'a pas eu lieu. Donc, on oublie ça. Et rappelons aussi que déjà, avec les faits qu'on connaît, les quelques faits qu'on connaît, si Blanche Garneau voulait entrer vraiment chez les religieuses, ben elle avait quand même un comportement qui semblait dire le contraire. C'était pas une dévergondée, loin de là, mais elle commençait à s'intéresser aux garçons. Elle avait sorti avec Martin Griffin et tout ça, là... Ben, sorti, c'était donner rendez-vous pour les photos. Elle a quand même refusé de sortir avec lui. Mais quand même, elle flirtait avec certains... la jonque masculine, si on veut. Donc, elle n'a pas donné de signe. Et comme je le répète une fois, le dossier judiciaire ne contient rien. En tout cas, j'ai rien vu. Peut-être que si vous le révisez, que vous voyez quelque chose, ben, vous me le direz. J'ai peut-être passé par-dessus. C'est possible. L'erreur est humaine et des fois, on a les yeux fatigués. Mais bon, moi, j'ai jamais rien vu là-dessus dans toutes les enquêtes qu'il y a eu, toutes les questions, en tout cas, bref. Alors, voilà.